Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, c'est avec Patience Ngalula. Bienvenue à ce journal sur Radio Kapi. 108 écoles détruites par des inondations dans la province éducationnelle Tanganyika 1. Les directeurs provinciaux de l'éducation et nouvelle citoyenneté de ces secteurs qui livrent l'information déclarent avoir mené un plaidoyer auprès des autorités et des partenaires sans aucune réaction jusqu'à présent. Le FRDC et l'armée ougandaise UPDF se disent satisfaites des résultats obtenus jusqu'ici dans les opérations de traque des rebelles en Ituri. Par ailleurs, elles félicitent les populations pour leur collaboration qui a permis d'obtenir ces résultats. Notre invité est le chef de division à la direction de services pénitentiaires au ministère de la Justice et ancien directeur de la prison centrale de Makala. Dido Kitungwa, l'un des participants aux travaux des États généraux de la Justice, propose quelques réformes sur la politique pénitentiaire congolaise. Bonjour à toutes et à tous. À Kalemi, le directeur provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté de Tanganyika 1 a annoncé à la presse le jeudi que 108 écoles de son secteur ont été détruites par les inondations des eaux du lac Tanganyika. Il s'agit des écoles de la ville de Kalemi et des territoires de Kalemi, Moba et Nyunzu. Nicolas Prince Baeleai indique que plusieurs élèves étudient dans de mauvaises conditions. Il dit avoir fait un plaidoyer auprès des autorités et des partenaires, mais aucune réaction jusqu'à présent. On écoute Nicolas Prince Baeleai dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Il n'y a que 25% d'écoles de Tanganyika 1 qui sont construites en dur. Le reste, c'est en matériaux locaux. Pour dire clair, c'est empisé. Vous voyez un peu la difficulté. C'est à tout moment que la communauté doit procéder à des réparations de toitures, à des réparations des murs. Et cela s'est aggravé avec la dernière vague de crue du lac Tanganyika que nous avons connue et qui a impacté sur 108 écoles. Dans l'ensemble, rien que pour Tanganyika 1, pour une population scolaire estimée à 40 000 élèves qui ont vu leur scolarité perturbée à cause de cela. Et à ce jour, nous avons mené beaucoup de plaidoyers, que ce soit auprès de la haute hiérarchie, que ce soit aussi au niveau des partenaires techniques et financiers, et même de la communauté locale. Mais jusque-là, on n'a pas encore reçu un feedback de nature à soulager ces problèmes-là.
Cependant, dans la province de l'Ituri, l'école primaire d'application de Bogoro dans le secteur de Bahema Sud connaît cette année un accroissement d'effectifs de près de 40%. Le responsable de cet établissement scolaire attribue cette augmentation des effectifs à la dotation par le gouvernement d'un nouveau bâtiment dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Il s'agit de deux édifices pimpants neufs dotés de 9 salles spacieuses équipées de pupitres, tableaux ainsi que de chaises étables pour le corps enseignant. On y trouve également des latrines et des bureaux administratifs ainsi qu'une salle polyvalente. Emmanuel Kabagambe est le directeur de l'école.
Cette fois-ci, nous avons l'effectif de 349 élèves. Aux années antérieures, là-bas, nous jouons sur l'effectif de 250, 270, des choses pareilles. On n'a pas encore atteint 300, mais cette fois-ci, je vois qu'il y a l'augmentation d'effectifs.
Il attribue cette hausse des effectifs à la gratuité de l'enseignement décrété par le gouvernement, mais surtout aux infrastructures qui permettent aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Rebecca Mbavazi, enseignante de deuxième année du primaire, confirme.
Avant, on fonctionnait dans un bâtiment. Lorsque la pluie tombe, il était difficile de poursuivre les enseignements à cause de bruit, comme les salles n'avaient pas de plafond. Mais actuellement, les enfants et nous-mêmes sommes bien. Même s'il pleut, nous enseignons sans problème.
La remise officielle de ces ouvrages a eu lieu en novembre de l'année dernière, mais c'est depuis la rentrée scolaire 2024 qu'elle fonctionne à plein régime. De retour de Bogoro, Jean-Claude Lecu, Radio Kapi.
Sans plus tarder, rendons-nous dans la province du Maniema où 35 médecins qui ont fini leur cursus académique se sont inscrits au tableau de l'ordre de médecins. Cet acte a été précédé par leur prestation de serment. Le président provincial du Conseil de l'ordre de médecins du Maniema exhorte ces derniers à travailler dans le respect des normes du pays et de leur profession. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
La prestation de serment ouvre la porte à ces médecins pour œuvrer dans la province. Ainsi donc, Dr Charles Messumbu leur prodigue ses conseils.
Aujourd'hui, nous sommes venus recevoir les serments des 35 impétrants qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Ce n'est pas tout celui qui a fait la médecine, tout celui qui a un diplôme de docteur en médecine qui est habilité à exercer comme médecin. L'exercice de la médecine, c'est un ministère. Donc, ce sont des nobles dans la société. Ils doivent respecter les serments qu'ils ont prêtés aujourd'hui. Et ils doivent respecter la vie humaine dès la conception. Donc, nous ne nous attendons pas à avoir des gens parmi eux qui seront là en train de ôter la vie, même à des fœtus. Nous leur avons rappelé que la santé de leurs malades sera leur première motivation. Donc, c'est pas d'abord l'argent, mais c'est d'abord la santé du malade.
Pour leur part, les médecins se disent conscients de la tâche qui les attend. L'un d'eux, Dr Jérémy Moutala.
Aujourd'hui, nous avons prêté serment. Nous garantissons à la société de pouvoir travailler dans la quiétude et travailler dans la légalité, conformément à la loi.
Selon le président provincial, à ce jour, les médecins inscrits au tableau de l'ordre sont autour de 600 dans la province du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La rencontre des experts militaires de la RDC et de l'Ouganda ouverte à Beni s'est clôturée ce samedi. Pendant 72 heures, les deux armées ont fait le point sur l'évolution des opérations des traques de rebelles des EDF, notamment dans les territoires de Beni, Lubero et Mambasa en Ituri. Le FRDC et les UPDF, l'armée ougandaise, se disent satisfaites des résultats obtenus jusqu'ici. Elles félicitent par ailleurs les populations pour leur collaboration avec les forces de sécurité qui a permis d'obtenir ces résultats. Pour les porte-parole des opérations conjointes dans la région, l'apport de la population est significatif en termes de renseignement et soutien moral aux troupes engagées au combat contre ces rebelles. Le colonel Mac Azoukai s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Les forces de la coalition FARDC-UPDF contrôlent ce qui était considéré jadis comme le bastion de l'ennemi, à savoir le Graben, la vallée de Mwalika, le massif de Rwenzori, le triangle dit de la mort de triste mémoire. L'ennemi avait migré à l'ouest de la nationale numéro 4. La menace a atteint le territoire de Mambasa. Et là aussi, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a des cellules dormantes du terrorisme qui sont dans des agglomérations. Donc tout le monde doit doubler vigilance et surtout donner beaucoup de chance aux forces de la coalition. Et plus pour nos compatriotes du secteur de Bapere et aussi au sud du territoire de Mambasa, nous devons encore travailler ensemble. Parce que le résultat que nous avons, c'est le résultat qu'on a obtenu ensemble. La population nous est importante en termes de renseignement, en termes de soutien moral. Donc, le message le plus fort, c'est de continuer à croire à la victoire des forces de la coalition sur les islamistes de l'ADF.
Dans la province de Lualaba, plus de 1000 femmes vendeuses au marché Kasulo à Kolwezi ont été sensibilisées ce samedi sur les cancers du sein. Cette manifestation a été organisée par les réseaux pour la promotion et l'autonomisation de la femme REPAF en collaboration avec l'Association des femmes professionnelles de la santé. Une centaine d'entre elles a été aussi dépistée sur place dans les bureaux de l'administrateur du marché aménagé pour la circonstance. D'autres détails avec Aimé Manyong, présidente du réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme, jointe par Jean Gandou.
Étant donné que l'autonomisation de la femme est une question complexe et transversale qui touche aussi les aspects de sa santé, nous sensibilisons également sur les aspects sanitaires qui touchent la santé mentale ou la santé physique de la femme afin que son bien-être général puisse nous permettre d'avoir des résultats en termes d'autonomisation économique. Notre cible sont les femmes et les jeunes filles. C'est une sensibilisation des masses qui se fait dans le marché et c'est un grand marché qui compte plus de 1000 femmes qui travaillent dedans. Celles qui se sont présentés et qui ont été enregistrés pour le dépistage volontaire sur place, c'est une centaine. Après les dépistages volontaires qui s'est fait sur place, s'il y a des cas qui s'avèrent être suspects, nous les référons directement auprès de Dr Fanny Malonga à l'hôpital général Mwangeji et c'est là qu'elle assure une prise en charge gratuite. S'il y a des cas qui sont en état très avancé, elle aussi s'est référée à son niveau par rapport à ses responsabilités. Elle sait comment elle va gérer cela.
Les campagnes de vulgarisation de textes qui militent pour la lutte contre les violences sexuelles et basées sur les genres, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes, portent déjà des fruits. C'est le constat fait par les leaders communautaires des Katoni et Bogoro, deux entités coutumières situées à la périphérie des Bounia, dans la province de l'Ituri. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par la section du genre de la MONUSCO Bounia en vue d'améliorer les statuts des femmes et leur représentation dans les structures communautaires. Les points avec Jean-Claude Loki Dilé.
Cette campagne de sensibilisation vise à casser les barrières et les us et coutumes qui freinent l'émergence des femmes. Depuis plusieurs années, la section du genre de la MONUSCO organise des échanges pour, entre autres, convaincre les hommes à s'associer à ce combat pour l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes. Pour Roméo Oudo, habitant du village de Katoni, des changements considérables sont enregistrés.
Notre chef du village de Bouissabouni a procédé par élire les mamans comme les chefs de maison qui sont femmes. C'est à l'issue des formations et des restitutions que nous amenons dans le milieu que nous avons déjà trouvé, il y a eu changement.
Jeannette Mavé, mère de famille qui vit à Bogoro, est du même avis. Pour elle, les femmes sont de plus en plus associées par leurs époux à la prise de décisions qui concernent la gestion de leur foyer.
Actuellement, nous les femmes avons droit à la parole, chose qui n'était pas possible avant. Par exemple, exercer une quelconque activité commerciale. Avant, c'est l'homme qui s'accaparait de toutes les recettes. Mais grâce à ces sensibilisations, nous pouvons maintenant aisément mener nos commerces.
Une trentaine de personnes, membres de comités locaux de protection, ont pris part à cette activité qui s'est déroulée à Bogoro, à 25 km de Bounia. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki, dit les radios Okapi.
À Kinshasa, la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, CPVGR, dans la province du Kasaï central, s'engage à travailler en synergie avec les Fonds nationaux de réparation des victimes des violences sexuelles, FONAREV. Les délégués de ces deux institutions publiques se sont retrouvés dans un atelier de trois jours pour mutualiser leur stratégie dans le cadre de la justice transitionnelle. Ces assises ont été clôturées ce samedi. Tout s'est passé sous l'encadrement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et ONU Femmes. Pour le président de la CPVGR Kasaï Central, cet atelier a permis à sa structure de travailler désormais sur une même matière que les FONAREV. Augustin Loko l'est dit au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Nous allons travailler en collaboration avec FONAREV, dans ce sens que FONAREV a la priorité de la réparation. Mais dans cette réparation, il y a l'identification. Or, l'identification, c'est d'abord savoir la vérité. Et du côté de la CPVJR, nous avons la vérité à établir, la vérité des faits, nous avons la justice et nous avons la réconciliation. La réconciliation, c'est en vue de la réparation. Voilà pourquoi la CPVJR et le FONAREV qui ont certaines missions en commun, devront travailler ensemble. Voilà ce pourquoi nous nous sommes rencontrés, pour établir une passerelle, établir un cadre de concertation, afin que notre travail d'ensemble porte des fruits, et des fruits qui demeurent, parce que nous avons les mêmes objectifs, ce sont les victimes. Accompagner les victimes pour les mettre et les remettre dans leurs droits qui ont été bafoués.
Restons à Kinshasa. Bandalungwa, une commune de la capitale, qualifiée par certains de ses habitants de Bandal Separi, est loin d'être ainsi nommée durant la saison des pluies. Plusieurs de ses artères principales sont souvent méconnaissables lors des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. Les avenues Kisangani, Lubumbashi, Asolongo, en allant vers Kitambo, Kimbondo, Inga et Sundi, pour ne parler que de celles-là, présentent un spectacle désolant. Une situation qui perdure depuis plusieurs mois maintenant et qui met à mal la population riveraine. Notre reporter Plamedi Mbiavanga a sillonné quelques-unes de ces artères. Voici son reportage.
Des nids de poules, des bourbiers, des caniveaux bondés d'immondices et des bouteilles en plastique déversent des eaux puantes sur plusieurs chaussées. C'est le cas entre autres du croisement des avenues Sundi et Kisangani au quartier Makelele. Ici, l'eau fait bon ménage avec la chaussée. ce qui occasionne des embouteillages à ces points précis. Au dire des habitants du coin, l'absence des poubelles publiques serait à l'origine de cette situation.
Avec les poubelles qu'on est en train de jeter dans les carnivaux, vu qu'il n'y a pas l'entretien, toutes les poubelles là sont coincées en cours de route là où il y avait les tuyaux. Maintenant, il n'y a plus moyen que l'eau puisse passer.
Une faute poubelle qui vient de pleuvoir il y a deux jours passés, ça a vraiment causé des problèmes. Comment les gens vont passer? C'est la venue de Fali Poupa, c'est la venue du ministre des médias, Mouyaya. On ne sait pas comment faire.
Cette réalité durant la période des pluies les empêche de vivre paisiblement. Il lance un message aux autorités.
Vraiment, ça fait la honte. Demandons vraiment à l'État de venir nous secourir afin que cette chose-là ça puisse se terminer.
Qu'ils doivent venir envoyer les gens pour qu'ils puissent venir réparer. Parce qu'il y a la route qui est en train de s'abîmer. Si vous voyez avec des l'eau qui est en train de faire sortir ici, il doit se prendre en charge et venir réparer la route.
Il précise également que la réhabilitation de cette route ne suffit pas. Il faudrait un suivi régulier durant la période des pluies.
Actualité internationale.
L'ancien premier ministre kényan Raila Odinga a lancé officiellement sa campagne électorale pour devenir président de la Commission de l'Union africaine. Les États membres éliront les successeurs du Tchadien Moussa Faki Mahamat lors du sommet de l'Union africaine en février 2025. Le candidat a présenté sa vision et son programme aux médias à Addis Abeba.
L'invité.
État généraux de la justice, le chef de division à la direction des services pénitentiaires au ministère de la justice et ancien directeur de la prison centrale de Makala propose quelques réformes sur la politique pénitentiaire congolaise. Dido Kitungwa participe aux travaux des états généraux de la justice. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Dido Kitungwa, bonjour. Que peut être la nouvelle politique pénitentiaire?
Vous savez tout d'abord que les services pénitentiaires étaient régis par l'ordonnance 344 de 1965. La politique, on doit réformer. Heureusement, la loi du 15 juin 2023 est venue pour mettre de côté l'ordonnance 344. Je félicite son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour avoir amené cette loi devant le gouvernement. Mais il manque d'autres texte sur la création de la Direction Générale d'Administration Pénitentiaire.
La DGRP.
DGAP.
C'est une des recommandations des États généraux de 2015.
Non, oui, c'était une des... Mais ça n'a pas été exécuté.
Pourquoi?
C'est la raison pour laquelle... C'est pour vous dire que la justice continue toujours à être malade. Moi, je parle de mon secteur, les services pénitentiaires. La création de cette Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire, parce que tous les pays qui nous entourent, ils ont des directions générales. Évidemment, sauf les Rwandais. Les Rwandais, ils ont un système de Guantanamo. Mais à ce qui concerne nos voisins, d'autres voisins, ils ont une direction générale. Pourquoi pas nous? Nous ne pouvons pas aussi être une direction autonome comme les autres. Ça va arranger tout. Et ça va aussi engendrer ce que nous demandons, qu'on change aussi, qu'on révise aussi le code pénal. Parce qu'on est en train de déplorer la surpopulation carcérale. Les gens voient seulement qu'il faut toujours construire les établissements pénitentiaires. Non, on doit réformer les codes pénals. Pourquoi on doit réformer? Nous, les pénitentiaires, nous allons bénéficier. Nous allons bénéficier en quoi? Il y aura des peines non privatives de liberté et les peines privatives de liberté. On va bien déterminer les préventions qui concernent les peines privatives de liberté, les gens qui doivent aller en prison. Et les peines non privatives de liberté.
Vous avez géré pendant longtemps la prison centrale de Makala. Que peut-être la thérapie pour guérir la maladie des surpopulations carcérales?
Non, il y a la construction de l'infrastructure pénitentiaire et qu'on révise aussi les codes pénals. Dès qu'on révise les codes pénals, nous allons bénéficier des peines alternatives. Au lieu de tout le monde, comme en France, tout le monde n'est pas en prison. Il y a des gens qui sont condamnés, mais ils purgent leur peine à l'extérieur des prisons.
Amener les gens à des...
Les travaux d'intérêt général.
Les travaux d'intérêt général.
Les travaux d'intérêt général.
Comme le service de cantonnage, le service national.
Voilà. Là, c'est nous, les pénitentiaires, commencerons avec les juges d'application des peines. Nous allons commencer maintenant à mettre les gens qui sont condamnés aux travaux d'intérêt général à la disposition des services chargés des travaux publics. Et ils seront bien contrôlés. Vous verrez que l'idée de son Excellence le ministre d'État, c'est une très bonne idée. À notre secteur, les services pénitentiaires, c'est une grande maladie. Si on me demandait, moi, on doit opérer cette maladie. Avant d'opérer, il faut purger. Il faut que le malade passe par le purge avec les Mundongo.
Pourquoi il n'y a pas un service de rééducation correct dans nos prisons? Les prisonniers en sortent comme ils y étaient entrés, sans être rééduqués.
Avec la création de la Direction Générale d'Administration Pénitentiaire, nous aurons des directions centrales. Dans les directions centrales, il y a une direction nationale. Une direction nationale que nous allons appeler Direction chargée de la réinsertion sociale et approbation, qui vont charger de réinsérer, de bien encadrer tous les condamnés. Vous comprenez? Tout passe par la réforme. Qu'on nous accepte la réforme du système pénitentiaire, en même temps le code pénal, pour que nous bénéficions des peines alternatives. Avec ça, vous verrez, il y aura une très bonne organisation. Il y aura, et on doit aussi former les agents pénitentiaires. On ne s'improvise pas agent pénitentiaire. C'est un service technique. Je déplore. Même celui qui va diriger la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire, il doit être une personne formée. Qu'on ne nous improvise pas un politicien pour qu'il commence. On aura toujours des problèmes. C'est un service technique qui demande qu'on ne s'improvise pas pénitentiaire.
Monsieur Dido Kitungwa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.